Commencer l'enregistrement pour Marine.
D'accord.
Voilà, comme ça c'est fait. Okay. Je reprends. C'est où? C'est
donc
là.
Il faut signer voilà. L'accord et tout. Ok, allez.
Donc on y va. On a effectivement, c'est une très 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 bonne idée, Fabrice. Merci.
J'ai oublié, j'ai...
Bah là, c'est l'application numérique du calcul du delta P viscosité. 8, c'est le coefficient. On a 3 × 10⁻³ pascal fois seconde, donc 0,003. Après, on a la longueur en mètres de la tubulure, c'est 2 mètres. On a quoi d'autre? D. Alors, en l'occurrence, le débit, c'est 0,5 litres par 15 minutes. Donc, 0,5 litres, c'est 0,5 décimètres cubes. Donc, 5 × 10⁴ mètres cubes. OK, que divise? Combien de secondes? 15 fois 60. D'où le 0,5 litres par 15 minutes qui devient tout ça, que divise pi, et on a le 2 × 10⁻³ à la puissance 4.
Et ça, c'est
le rayon.
Le rayon et donc la section.
Exactement.
La section.
Parfait. Hein,
ça, oui. Voilà, ce qui nous donne à la toute fin 530,5 pascal lié à la simple circulation du fluide. On perd 530 pascal. Et on avait aussi à ajouter 2000 pascal à ces 530, soit donc une pression totale à vaincre PT égale à 2530,5 pascal. OK?
Parfait.
Eh bien, 2530,5 pascal transformé, je vais y arriver, excusez-moi, en ρ GH. Delta H égale toujours PT sur ρ G. On a 2530,5 pascal au numérateur. Toujours la masse volumique du sang, 1,059 × 10³ kg par mètre cube. Et G qui est toujours égal à 9,80 mètres seconde moins 2, nous sommes toujours sur Terre. Soit 0,244 mètres, c'est-à-dire 5 cm au-dessus de la hauteur précédente.
Ah oui, ok.
19,2, on passe à 24,4, un peu plus de 5 cm au-dessus.
Parce que là, le delta P viscosité, c'est quelque chose qui s'ajoute.
Exactement.
C'est ça? Ok.
Il
donc
a fallu
c'est
que...
pas, c'est pas une chute de pression. Parce
tout.
Que non. Et pourquoi avant, tu avais dit quelque chose, chute de pression due à la circulation? Non, chute de
oui.
pression.
Mais il faut ajouter justement une hauteur pour compenser cette perte de pression liée à la viscosité.
Ok, mais perte dans le sens qu'en bas, il y a plus de pression. C'est pas, dans, c'est
ah
pas
non, qu'il y ait une ça, c'est uniquement piézométrique, c'est uniquement l'altitude. Comme je te l'ai dit, le fait que le sang circule, ça pourrait être du bas vers le haut, cette perte de 530. C'est juste la circulation.
D'accord, mais la perte, je la remarque à quel niveau? En haut ou en bas?
Aux extrémités. Il n'y a plus de haut, il n'y a pas de haut et de bas concernant le delta P viscosité.
Okay.
C'est juste la circulation. Elle pourrait se faire n'importe comment.
Du coup, c'est normal d'avoir...
De haut en bas. Pardon ?
C'est normal d'avoir une tubulure de 2 mètres. En gros, elle va traîner par terre et elle remonte ou je ne sais pas ?
Elle pourrait très bien traîner par terre et remonter. Ce sont des équations qui sont véritablement un état final et un état initial. Quand, okay. C'est des variables qui permettent effectivement des transformations dont on a juste à considérer l'état final et l'état initial.
Non, mais la poche de transfusion réelle, elle n'est pas si longue. Non, c'est pour l'exercice
de mètres. 2 mètres, ça peut, tu sais. Parce que souvent, ça se branche sur un totem où tu vas avoir plein d'autres choses qui arrivent. Et il y a des sacrés.
Et la place, etc. Okay.
Il y a des sacrés longues.
En résumé, on était à combien? 18, tu disais
19,2.
19,2 cm. C'était le minimum.
C'était le minimum pour vaincre les 0 pascal.
Mais on passait de 0 litres par minute.
0 litres par minute.
Et là, il faut monter de 5-6 cm pour avoir 0, le 5. Débit de 0.
Donc, voilà. Chers amis, si vous voulez 1 litre toutes les 15 minutes, vous remontez de 5 cm. 2 litres, vous remontez de 10 par rapport au 19,2. C'est linéaire.
D'accord. Okay.
C'est linéaire. Et la question que je pose aux gamins à ce moment-là, et ça, c'est intéressant, ta remarque, Nicolas, dans ce sens, c'est est-ce qu'il n'y a pas un truc à vérifier par rapport au calcul? Est-ce que la réponse est réaliste par rapport aux données? On a constaté effectivement qu'il fallait positionner à 25 cm à peu près au-dessus de la veine, le flacon de transfusion pour avoir ce débit. Supposons que la tubulure n'ait pas fait 25 cm, mais un peu moins. Au contraire, une tubulure très courte. Le calcul vous aurait quand même donné 25 cm. D'accord ?
C'est-à-dire si ce n'est pas 2 mètres.
Tout à fait. Il se trouve qu'il y a fort heureusement une concordance entre le fait que le fluide a circulé dans 2 mètres de tubulure et qu'il faut le placer à 25 cm au-dessus et pas à 2 mètres 50. Mmh. Parce que s'il avait fallu pour circuler dans 2 mètres le placer en 2 mètres 50, il y aurait eu un problème. Mmh. D'accord ? Okay. Donc, les mathématiques donnent toujours un résultat. La physique se doit de vérifier que le résultat est réaliste.
Ok,
okay ? Mmh. Et là, je vous assure, vous marquez des points.
on part aussi sur le principe que le sujet il est horizontal. Donc, que. Non ? La veine ? Ah oui, non.
C'est juste la position de la veine.
Oui, d'accord.
C'est une altitude. Hein.
La veine, elle doit être horizontale.
Non,
même pas. Non, d'accord, je retire.
Voilà, c'est pas très, très contraignant sur ce point. En revanche, vous avez circulé dans 2 mètres de tubulure, il faut vous assurer qu'il ne faille pas le placer à 50 mètres. Voilà, après, il y a des notions
Il suffit de pratiquement exactement, de monter 5. De 25 cm
et c'est suffisant.
Et voilà. Il passe à travers.
Hop, ça va ? C'est OK, tout le monde, ouais, hein,
okay.
Okay. OK. Le troisième, c'est un oxyde anal, hein, d'ailleurs. Le tube de Pitot, c'est pas inintéressant parce que ça, c'est effectivement la mesure réalisée par les collègues intensivistes de pression artérielle sanglante in vivo, okay. Véritablement. Quand on monte effectivement un cathéter pour mesurer, par exemple, ce qui se passe dans l'oreillette droite ou le ventricule droit,
okay.
On a les pressions droites qui sont mesurées de cette façon-là.
Okay.
Toutefois, sans faire des trous dans l'artère, c'est remplacé par un dispositif miniaturisé. Donc, dans le vaisseau sanguin, on mesure une pression dite PL latérale, vous l'avez ici, mm-hmm. Et une pression terminale PT, vous l'avez ici, à l'aide d'un tube de Pitot qui a été présenté en cours.
D'accord.
Le vaisseau est considéré comme horizontal, là, ça a son importance. En réalité, traduction, le vaisseau est court entre PL et PT, c'est-à-dire que horizontal ou vertical, et ça reprend ta remarque sur la colonne d'air, ça ne changerait pas grand-chose. Okay. Mais pour les besoins et l'agrandissement et pour les besoins didactiques, on va le considérer comme horizontal. La différence de pression PT moins PL est mesurée, bien entendu, par la différence de pression des sondes de pression que constituent les tubes piézométriques qui, en toute théorie, nécessitent une effraction dans la paroi du vaisseau, qui, encore une fois, on peut s'en passer par le dispositif intravasculaire pur. Donc là, on fait comme si on avait fait une effraction ici, et donc le sang circule dans ce sens-là à la vitesse V, et la seule présence du sang, pas celui circulant, mais du fait qu'il y a du sang, fait monter, effectivement, le sang dans le tube piézométrique pour montrer qu'il y a la pression hydrostatique. Oui.
Oui, et donc c'est les ouvertures, donc le fait que là, le premier est ouvert seulement, il arrive perpendiculairement, on va dire, au vaisseau, et l'autre est parallèle au vaisseau, c'est ça qui fait la différence que je mesure.
C'est exactement ça.
D'accord.
Pour une raison très simple, c'est que le sang qui va arriver ici, regarde,
et longitudinal.
Bang,
oui.
Il percute effectivement cette paroi-là. Donc, où va le sang après ? Vers le haut. Donc, tout ce qui a concerné effectivement le passage de la vitesse V à la vitesse projection horizontale, nul. Toute cette énergie permet de créer une surpression dans ce sens.
D'accord. Et la vitesse nulle, parce que ça, c'était une question à moi que j'avais. La vitesse nulle, ça passe.
Projection horizontale.
Parce qu'il fait, il s'arrête à la paroi. Ah, d'accord. Ah, voilà.
C'est très astucieux. Ce monsieur Pitot est un génie.
La vitesse ne participe pas ici à la montée.
Non.
À gauche. Hein,
c'est non, un demi de rho V carré, la pression hydrodynamique, c'est le caractère organisé de la circulation du flux. La pression hydrostatique, c'est le caractère inorganisé. C'est exactement comme la thermodynamique. Hein. Vous savez, la pression, d'une part, dans un récipient, et ensuite, vous ajoutez un travail par la progression du piston. Okay. Vous avez mobilisé en moyenne toutes les molécules en leur proposant un trajet organisé, mais elles restent aussi très désorganisées. Je ne sais pas si l'analogie est forcément exacte, mais on peut comprendre la chose de cette façon-là entre le P hydrostatique et le 1,5 de rho V carré, pression hydrodynamique dans l'équation de Bernoulli. Donc là, on est passé effectivement d'une vitesse V à une vitesse nulle et cette vitesse nulle crée ce surplus de pression mesuré par le tube piézométrique. On a tout. Quelle est la vitesse V ? Parce que c'est un tachymètre. C'est vraiment une mesure de vitesse, ce dispositif. Dans le fluide qu'on va considérer cette fois-ci comme parfait et incompressible, qui sont les deux conditions pour pouvoir utiliser le Bernoulli, quand la différence de hauteur H0 vaut 0,3 cm, on a juste la masse volumique du sang proche de celle de l'eau et 9,81, on est toujours sur Terre. Il y a quatre vitesses qui sont proposées en centimètres par seconde. Donc, schéma extrait du cours, c'est le même. Tube de Pitot 0,3 cm, 100 g égale 1,06 g par centimètre cube. On veut la circulation donc, du sang, c'est-à-dire VL, celle qui est en rapport avec cette section-là, pas celle-ci. Bien sûr, en dessous, il continue à circuler, mais dans ce petit tube, la vitesse nulle est apparue ici. Donc, l'équation de Bernoulli entre L et T, tube de courant, nous donne PL 1 demi de rho VL carré plus rho GZ plus égale PT plus 0, puisqu'on a annulé la vitesse, plus rho GZ, parce que le tube est horizontal.
Z, c'est l'altitude du point d'étude.
Exactement.
C'est l'altitude de... Je n'ai pas compris.
L'altitude, précisément, du point de l'axe de symétrie du vaisseau. Donc, précisément, de ce point-là et de ce point-là.
Ah, d'accord.
C'est pas le point... Parce que là, sur le schéma d'avant, le tuyau, il descendait un peu plus. Et non. Sur le schéma...
Non, ça n'a rien à voir. Pas de souci. Pas de souci. Et effectivement, c'est aussi une approximation. En réalité, Bernoulli devrait plus ou moins avoir comme hypothèse, mais purement mathématique, donc pas réaliste en physique, le fait que le vaisseau soit infiniment fin. Tu vois ? Mais ça, c'est pas grave. Dans la mesure où Bernoulli n'est qu'un modèle d'un fluide qui n'existe pas, le fluide parfait. Donc, on n'est pas en plus au fait de rajouter que le vaisseau doit être infiniment fin.
Donc, rho GZ, c'est la pression, parce que c'est une pression. Non,
liée au fait qu'on est à une altitude Z.
Voilà. Et l'altitude Z est par rapport à quoi? C'est où le 0, Z égale 0?
Rho, par exemple, au niveau de la mer.
En fait, c'est où tu veux, comme il y a un delta.
C'est-à-dire, c'est où comme. Ok.
Ça aurait été d'importance si le vaisseau allait du haut vers le bas.
Ah là, oui.
Là, du haut vers le bas, parce que
là, la différence,
c'est oui, parce qu'il y a aussi un Z1, un Z2.
Ou au contraire, vers le haut, ça aurait freiné l'écoulement dans un sens ou dans l'autre.
Exactement. Et ça, c'est une augmentation, une perte de pression qui rejoint. C'est le PV qu'on est en train de vouloir. Ok, donc ça se simplifie très très vite. Vous avez plein de choses qui s'annulent et donc on n'a plus que PT moins PL, c'est le delta P que vous mesurez par H0 qui est juste égal à 1/2 de rho V carré. Ça tombe bien, c'est ce que vous cherchez. Et le delta P, il est reflété par la hauteur H0 qui a augmenté ici en PT, donc rho GH0 égale 1/2 de rho V carré. Tout ça pour ça. Ben, ça tombe bien parce qu'à la toute fin, ça nous fait V égal racine de 2GH0.
Ok, c'est joli.
Et là, on peut attirer l'attention sur le fait que ceci est indépendant de la masse volumique du liquide concerné.
D'accord.
Et ça, c'est lié au fait que le tube est horizontal. Rho n'intervient plus à ce niveau. C'est joli.
Et H0, c'était mis à la place de.
Ben, rho GH0. Oui. C'est juste la différence de pression qu'il y a mesurée entre PT et PL par ce tube piézométrique.
Oui, mais H0 exactement, attends, c'est quoi? C'est, je ne me rappelle plus. Donc, je vois 0,3 cm et c'est quoi? Ah, ça, là. Ok, excusez-moi.
La différence de hauteur c'est ici la différence. Entre les deux trucs piézométriques. Voilà. Ok. Oui, et là, vous avez un tachymètre d'une grande fiabilité qui vous donne tout calcul fait. Il y a juste que le H0, il faut le transformer en mètres. C'est tout. Mm-hmm. Paf, 0,24 mètres secondes moins 1.
Okay.
Une remarque intéressante, là on a une vitesse bien entendu dont les variations ne sont pas linéaires en fonction de H0. C'est en racine, c'est une petite différence effectivement de tout ce qu'on a par rapport à tout ce qu'on a manipulé jusqu'à maintenant. Là on n'est pas linéaire. Pas inintéressant aussi de voir ce comportement. Voilà, donc 24 cm par seconde.
Si j'ai une question.
Vas-y.
Sur le fait qu'on doit insérer deux tubes dans une veine, ça se passe comment du coup
Alors, en fait, tu réussis effectivement à avoir la mesure de la pression hydrostatique simplement par des capteurs qui sont présents sur le centimètre terminal de du cathéter que tu as introduit. Et à la toute extrémité, tu as réussi à faire rentrer un petit peu de sang qui te permet de faire percuter effectivement le capteur à ce niveau-là. Donc, un qui te permet d'avoir le PL périphérique et un où on arrive à faire entrer un petit peu de sang pour que le capteur engrange également ce surplus de pression.
Donc dans le, papier, ouais, dans le cathéter, il y a ce dispositif quoi, qui est, voilà, est pas la veine,
à l'extrémité de l'ensemble du, de la. Voilà.
Ah d'accord, donc on ne fait pas de trou
au niveau où on mesure la pression, on est quand même obligé d'en faire un, évidemment. Dans une veine périphérique, la plupart du temps, c'est une veine du membre supérieur.
Et celle-ci représente aussi le point où on voulait mesurer, non? Et
alors... Non, la pression, tu ne la mesures que, oui, que là où tu es.
Et alors, je me suis un peu perdue.
Les deux mesures que tu vas faire sont à l'extrémité, donc dans le cœur.
Ok.
Mais le fait que tu aies eu à introduire l'ensemble du dispositif miniaturisé qui comporte EPL et PT, ce trou-là ne compte pas.
D'accord.
Mais c'est... EPL et PT sont très proches.
Très, très proches. Comme ça, mon histoire d'horizontalité, elle est vraie même si c'est vertical.
Oui, mais donc ça doit être inséré au niveau du cœur.
Tout à fait. Je vais te montrer pour magistral.
Après, il n'y a pas aussi des mesures par... dilution ou par thermique.
Il y a les mesures thermiques, hein, ça, c'est ce qui nous plaît, ça. Ouais. Mais on peut même faire des premiers passages radioactifs. Ouais. mais c'est en l'occurrence moins. Alors, PPTCM, tac, PDFCM, biomécanique blindée, hop.
Le cours est en ligne.
Oui, il est sur Moodle. Okay. Donc, c'est ce schéma-là. Donc, tu as le tube de Pitot, tu vois que c'est mon schéma, c'est le même.
Oui, oui.
Et juste avant, voilà. Tu as l'insertion du cathéter de Swan-Ganz et tout le dispositif miniaturisé est là.
Ah, ok.
D'accord.
Ok. Oui. Et donc, finalement, il prend le son, il le prend de là. Donc,
toujours, c'est... tout à fait.
Donc, c'est... tout se passe là.
Tout se passe là. Okay. Mais il a fallu y aller. Alors, veine périphérique, et la plupart du temps, d'ailleurs, quand on a besoin de mesurer ce type de pression dans le cœur droit, en fait, on est dans la jugulaire, ce qu'on appelle une voie centrale.
D'accord.
OK.
Oh là là. Ouais ça,
donc,
c'est...
Ça, je peux le fermer parce que c'est là. Voilà. Okay. On y va pour le dernier.
Oui, et le dernier, je dois dire que je n'ai pas trop regardé parce que j'ai vu que
Là... Il n'est pas intuitif, parce qu'il y a tout un cheminement que Cyril va développer. Il y a un cheminement de la réflexion, c'est pour ça. Ça saute pas aux yeux.
Avant de lire effectivement l'énoncé et l'ensemble de ce qu'il faut dire, poursuivre la remarque judicieuse de Fabrice, c'est le fait que cet exercice est là pour montrer que le modèle de la viscosité de M. Poiseuil a ses limites. Mmh. Et il a ses limites, en particulier quand un liquide peut se comporter comme un liquide visqueux, s'il est effectivement mobilisé avec une vitesse trop importante dans le vaisseau. Voilà. Donc, le fait de dépasser la vitesse qui fait sortir le liquide comme étant juste un fluide visqueux déterminé par le modèle de Poiseuil, c'est le but de cet exercice. Juste montrer qu'on peut être en dessous ou au-dessus d'une vitesse de circulation. Quand on est en dessous, Poiseuil fonctionne super bien. Quand on est au-dessus, il ne fonctionne pas bien.
D'accord.
C'est ça la philosophie du truc. Et donc, on a une pompe qui va faire circuler de l'eau colorée, on a la viscosité, on a la masse volumique, on a le débit constant en tout point du circuit. Mais dans deux tuyaux de diamètre différents. L'un 5 mm, l'autre 12 mm. Ces deux tuyaux sont en série. Chacun des tuyaux fait 1,5 m. Donc, c'est un gros dispositif de 3 mètres de long.
D'accord.
Et on va pouvoir, cette fois-ci, réellement faire des effractions dans ces deux tubes en série par des tubes piézométriques mesurant la pression à chaque fois.
D'accord. Donc, la photo, est-ce que je peux me permettre
Tout à fait. Elle va arriver. C'est ça. C'est l'ensemble du dispositif.
Donc, les tuyaux en série sont là en bas.
Exactement.
OK. Donc, c'est un zoom pratiquement.
C'est tout à fait ça.
L'eau circule de droite vers la gauche. Ici, c'est le tout en haut ici.
Non, de gauche vers la droite. De droite vers la gauche.
On est d'accord.
Bien sûr.
De la droite.
Parce que la pression
est haute. Le vase à débordement qui garantit un débit constant.
Constance du débit.
Et en fait, vérifier le débit va être confirmé par la diminution.
Par le petit débit.
Voilà. Et en fait, les tubes piézométriques ici, c'est sur la diapo suivante, ils sont rassemblés à un endroit. Mais finalement, ils mesurent la pression à 50 cm d'intervalle, mais ils sont juste rassemblés par des tuyaux. On peut, hein, puisque les tuyaux vont simplement ramener la pression sur les tuyaux. Ils vont simplement être rassemblés sur ce dispositif-là, sur cette planche en bois avec l'un à côté de l'autre. Ça évite de les avoir séparés de 50 cm et d'avoir ces deux-là espacés de 2 mètres.
C'est exactement ça. Et ceci prouve encore et toujours qu'il n'y a qu'une histoire d'état final, état initial, quel que soit le trajet qui a été pris. C'est toujours le même principe. Alors, je reviens sur la diapo des différentes données. Donc, ensuite, on va mesurer les pertes de pression, pertes de charge, les comparer justement aux pertes calculées par la formule de Poiseuille, et on verra si effectivement, il n'y a pas une vitesse qui aura été dépassée pour expliquer le fait que le modèle de Poiseuille ne s'applique plus. Pour ça, on va compléter un tableau qu'ils ont dans le sujet ligne par ligne. Et puis, on a juste la formule de Poiseuille, toujours l'accélération de la pesanteur, et aussi la valeur du nombre de Reynolds critique 2100, valeur sans unité, empirique, arbitraire, empirique, et qui peut varier éventuellement d'une source à l'autre. Dans le cours, on a pris 2100 et on va voir comment on va l'utiliser effectivement à ce niveau-là. Donc, vous présentez le dispositif.
C'est une sorte de TPTD.
Exactement.
D'accord. Avec modification, c'est assez original, hein, il faut reconnaître.
J'adore.
D'accord. Peut-être quand je l'aurai compris, aussi.
Mais là je suis encore. Vous montrez les photos, simplement.
Et qu'est-ce que c'est la différence entre ces deux photos-là? Parce que
C'est juste l'ajout du débitmètre ici. Qui est encore en série et qui permet de garantir le fait qu'on avait ici le vase à débordement qui assure 1 litre par minute, c'est ça ? Je ne sais plus, 1 litre par minute partout. Et là, et donc, on a un débitmètre qui est juste une sténose sur le circuit et qui permet de confirmer effectivement que le liquide circule.
D'accord, donc les tuyaux sont là, hein, sont là horizontales où il y a la partie verte.
C'est ça.
Et ils se réunissent, c'est où la conjonction ?
Un peu plus loin, il commence là. Le vert, c'est juste le socle.
Ah, ok.
Il faut vraiment 1,5 mètres.
1,5 mètres,
puis 1,5 mètres.
Ah, d'accord. Ok.
Oui, c'est ça, c'est 1,5 mètre, il y a 4 tuyaux.
Exactement.
Les 50 cm.
D'accord. Et ça, les 50 cm, c'est ça, on perce là, et là, et après, on les remet ensemble. Oui,
et il est où le tube de Pitot là-dedans ?
Il n'y a pas de Pitot. Il n'y a pas de Pitot. Mais là, tu as un tachymètre de Venturi, hein, par contre.
Oui, c'est un peu le même principe, je vois, avec un.
Voilà. Tu mets juste une sténose. Donc, tu as le avant sténose, pendant sténose, après sténose. Et on a mis les tubes isométriques, sténose et après sténose.
Et qu'est-ce qui fait la sténose ? C'est quoi la fonction de la sténose ? Donc là, tout. Attends, excuse-moi, j'ai une question peut-être débile, mais.
La sténose, c'est pour prouver qu'il y a une circulation. Là, tu constates que quand rien ne circule, clac, clac, niveau éther.
Ah, d'accord. Mais il n'est pas toujours là, cette sténose.
Oh, oui. Ah, si, elle sera. Tout ça est fixe.
Ah, ok.
Tout ça est fixe. Rien ne va être modifié sur la circulation du trajet.
D'accord. Ok.
Oui, je ne sais plus. Vas-y, j'avais oublié qu'il y avait ça.
Peut-être dans l'autre.
Ok.
Et les tubes dont on parle, les 5 mm et 12 mm, est-ce qu'on les voit ici?
Non, ils sont là. Par rapport à ça, ils sont là.
Ils sont en série. Ils sont à la suite.
C'est là. La sténose, elle est là. C'est le petit
machin. Ah, la sténose, elle est là. Ok, d'accord. Ok, là, voilà. Je suis. Eh oui, excuse-moi.
Il n'y a pas de souci. Il faut qu'il n'y ait aucun.
Parce que sinon, je ne peux pas l'expliquer. Là,
c'est au repos. Il n'y a rien.
Rien ne circule. Voilà. Tous les tubes piézométriques ont juste un équilibre avec la pression atmosphérique. C'est tout.
Voilà. OK.
Puis, à ce moment-là, vous passez à la petite vidéo. Tu l'as, Nicolas, la petite vidéo, hein ?
Oui, je l'ai. Ouais.
Et donc, quand on clique sur la petite vidéo. Donc, je vais pas la partager, simplement, on la montre, effectivement.
J'avais téléchargé.
Voilà.
OK, donc, hauteur différente.
Et là, on écoute.
Tu enlèves les bulles ?
Il y a un équilibre qui se fait progressivement, le temps que tout circule et qu'il y a un équilibre qui se fait.
Voilà. D'accord. Donc, ça, vous le montrez. Et, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et donc, une fois que vous avez montré effectivement l'installation de cet équilibre, vous passez à la suite qui est le fait de constater donc que le liquide circule. Il y a bien eu une perte. Non, non, c'est bon. Il circule bien dans ce sens-là. C'est que tu récupères ensuite après de nouveau la bonne pression. La pression hydrostatique diminue et la pression hydraulique réaugmente par dose de maturité. Voilà. Donc, pas de problème. On a bien une différence ici de pression qui montre que ça a circulé. Ensuite, on a le tableau à remplir. On a constaté effectivement. Je vous prie de m'excuser.
Sur la base de quoi? Et sur la base de quoi on remplit le tableau?
Alors, sur la base des éléments qu'on va trouver.
Okay.
Alors, par exemple, dans la première ligne, ici, on demande de remplir pour le tube étroit et pour. Et ça, c'est une mesure. Hein, c'est-à-dire, quelle est la perte? Je n'ai plus en tête. Attends, je vais voir si le. Ah, je ne me souviens plus ce qui est marqué à gauche. Je ne sais pas si tu as le.
C'est perte de charge observée sur 1,5 mètre.
Alors, la perte de charge, c'est pour ça que c'est un peu un TP. C'est que la perte de charge, dans le tube étroit, il y a une perte de charge qui fait de 0 à 25, donc elle est mesurée à 27 cm.
Ok, et est-ce qu'on doit lire quelque chose là ou
ici,
non?
C'est perte de charge.
Ah,
c'est, okay. C'est le début du tableau dans l'énoncé. Et là maintenant, dans le tube de 12 mm, la perte de charge n'est que de 5 mm. Donc dans un cas, la pression diminue très fortement dans le tube étroit, celui qui fait 5 mm, et dans le tube large de 12 mm, la pression ne diminue que de 5 mm. On va continuer, ça va venir tout doucement. Donc on se demande, la question est, comment se fait-il qu'il y ait une telle différence de perte de pression entre le tube de 5 mm où on perd 27 cm de pression en tant que centimètre d'eau de pression, et dans le tube large qui fait 12 mm, on n'a perdu qu'un demi centimètre de pression entre le début et la fin, entre le début du passage ici et 1,50 m plus loin ici, et là entre le début ici et 1,50 m plus loin où on a perdu 27 cm. Alors pour comparer, on va regarder, bon, le tube étroit fait 5 mm, le tube large en fait 12, donc il va falloir calculer.
Tu veux reprendre ça? Non, parce qu'il faut continuer au contraire.
Vas-y. Donc on va continuer de faire les calculs. La deuxième ligne, on va regarder, donc voilà, c'est ce qui était, hein, perte de charge observée sur 1,50 m. Voilà. Là, c'est simplement une réécriture hein, de ce qu'on avait vu avant. Dans le tube large, on n'a perdu que 5 mm d'eau.
Okay.
Vous allez voir, ça va venir progressivement. En fait, dans tout passage d'un liquide dans un tuyau, il y a une perte de charge linéique par unité de longueur qui va être mesurée ainsi. Delta P divisé par la longueur est égal à ρgh divisé par la longueur.
Bon, ça l'est logique.
Pour l'instant, voilà. Donc, on calcule dans le tube étroit qui fait 5 mm, le delta P qui fait ρgh. Donc, ρ, c'est 1000 kg par mètre cube pour l'eau, 9,81 pour g. La hauteur, c'est les 27 cm qu'on a vus, divisé par les 1,50 m. En gros, on a regardé la pente de la perte de charge. Elle est de 1766 pascal par mètre, dans un cas, et pour le tube large, elle n'est que de 33 pascal par mètre. On continue le raisonnement. Maintenant, on va faire le calcul de Poiseuil. Poiseuil nous dit delta P. Alors moi, je l'ai retenu autrement, j'ai une autre formule en tête, mais quand on la reformule, c'est comme ça. Le delta P sur L, en utilisant la formule de Poiseuil, et en précisant que c'est 8 eta fois le débit, divisé par pi r 4. Je veux toujours faire attention, j'ai des fois du mal dans ce TD, parce que le D, c'est le débit, et R, c'est le diamètre. À ce point.
Ah, R, c'est le diamètre, pas le rayon.
Non, le
D, c'est le débit.
Et R, c'est le rayon.
R, c'est le rayon.
On est d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit?
Le diamètre.
Tu dis ça?
Oui.
Pardon, merci. D, le débit, R, c'est le rayon. Bon, alors on avance un peu plus vite en disant, on recalcule le delta P théorique. On aurait dû avoir 1195 pascal par mètre pour le tube étroit et 36 pascal par mètre pour le tube large. On compare, donc ça c'est simplement un remplissage.
Et Elsa, ça on l'appelle souvent perte de charge linéique.
Et on a, on va calculer l'écart entre la mesure et le calcul. Donc ça c'est entre ce qu'on a mesuré, c'était les 1766 et 33 respectivement, et ce qu'on a calculé, 1195 et 36. On fait l'écart relatif, mesure moins calcul sur calcul.
Ouais.
On a 10% pour le tube large qui est en vert, donc il est considéré comme relativement proche entre l'expérience et la théorie, alors que pour le tube étroit, on a 50% d'écart. Donc il y a certainement une erreur quelque part. On ne peut pas uniquement penser que la théorie va s'appliquer dans le cas du tube étroit. C'est là qu'on va insérer la vitesse critique de Reynolds en le calculant, le nombre de Reynolds qui est donné à 2100. Là, il y a à nouveau un calcul. Dans un cas, le tube étroit est à 0,46 mètres par seconde. Dans le tube large, il est à 0,19 mètres par seconde. La vitesse moyenne avec un débit de 1 litre par minute qui est donné dans l'énoncé peut se calculer comme étant, cette fois-ci, c'est le débit divisé par la section.
C'est toujours possible.
Ça, c'est toujours possible.
Toujours possible de l'écrire.
On fait les calculs avec les changements d'unité. On a du 0,84 mètres par seconde et du 0,15 mètres par seconde. Ça va venir maintenant. On va mettre toutes ces informations ensemble. Dans le tube étroit, moi, des fois, j'ai tendance à commencer, par le tube large, mais ça n'a aucune importance. Ces 0,84 mètres par seconde sont supérieurs à la vitesse critique. Alors que dans le tube large, on est en vert, les 0,15 mètres par seconde sont inférieurs à la vitesse critique. Ce qui veut dire que cette vitesse critique était de 0,4. L'explication, elle est là. Dans le tube large, comme on est inférieur à la vitesse critique, le débit est laminaire. Et donc, la théorie retrouve avec une faible marge les chiffres de la pratique, alors que dans le tube étroit, la vitesse était supérieure à la vitesse critique.
Donc, turbulent.
Les régimes, comme tu dis exactement, il était turbulent. Voilà, oui, et ça explique qu'on avait une perte de charge de 27 cm qui était beaucoup plus importante que celle du qu'attendu. Et donc voilà, ça c'est le truc le plus excellent. Et ça, je ne sais pas s'il y a une explication, si c'est laminaire ou turbulent, mais c'est simplement une jolie photo.
C'est juste pour moi.
C'est une belle photo
du paradis sur Terre.
C'est l'un des endroits préférés sur la planète. C'est le bonheur. Et c'est où ?
Nous sommes dans les Pyrénées centrales. C'est le lac d'eau et la cascade d'eau qui est à la fois turbulente et laminaire. Elle fait un bruit extraordinaire.
Est-ce que Nicolas, tu avais encore des remarques parce qu'on est sur le départ.
C'est clair. Merci beaucoup pour votre temps, en tout cas. C'est parfait.
Merci à vous.
Je suis désolé de précipiter un peu la fin.
C'est parfait.
Il va vraiment falloir que je.
J'arrête l'enregistrement. Bonne soirée à tous. Bonsoir Marine.
Merci. À bientôt. Alors, à lundi ou à bientôt. Salut.
Et s'il y a le moindre souci, Nicolas, toujours à ta disposition.
Bonsoir. Peut-être on se voit lundi matin à la commission pédagogique ou pas?
Non, je sais pas.
OK. Bon.
Ouais, peut-être.